tu voulais peut-être continuer un truc, non?
Non,
Parce que si, les choses sont quand même compliquées aujourd'hui. Pékin plus 20, Pékin plus 25, là, qui devait avoir lieu en 2020, pourquoi ils n'ont pas fait un grand raout international? Parce que ça a quand même, comme nous l'a expliqué Joël, ça a quand même été une avancée mondiale, je dirais, de la lutte des féministes. À ce moment-là, un moment d'acmé. Et pourquoi, alors qu'il y a MeToo, qu'il y a une vague féministe de jeunes femmes qui ont moins de 30 ans, etc., qui reprennent le flambeau de leur mère et de leur grand-mère, pourquoi aujourd'hui on n'a pas une conférence internationale où on met autour de la table 156 pays, comme ça a été le cas au Caire, qui permettrait d'avoir des avancées encore plus importantes? Et peut-être, par exemple, d'inclure les hommes sur la question de la responsabilité par rapport à la reproduction humaine, etc. Bon, c'est un exemple que je donne, puisque ça a été dit là. Et c'est quand même important comme question, parce que la réponse qui est faite quand on discute avec les acteurs internationaux, avec un certain nombre de diplomates, etc., c'est... si on met en place une conférence internationale, on va régresser sur le droit des femmes. C'est ça qui nous est dit. On va régresser sur le droit des femmes, d'où cette espèce de... Alors, tout à l'heure, je parlais de la peur des Blancs, mais aussi cette espèce de crainte du monde occidental d'être assez minoritaire par rapport à une montée des communautarismes identitaires, des traditionalismes. Du monde musulman, des... Bon, voilà. Donc, qui effectivement ne donne pas un statut à la femme très enviable du point de vue de l'émancipation. Alors, du coup, la stratégie du féminisme institutionnel, telle que la Suède, le Canada et la France, comme l'a dit Joël tout à l'heure, c'est de lâcher le multilatéralisme. D'autant plus que l'ONU, aujourd'hui, ou l'OMS, a été assez critiquée. Du temps de Trump même, elle a été mise de côté par les Américains, dont on a vu l'importance historique. Et donc, il n'y a plus d'appétence, de désir suffisamment important dans le monde pour mettre en place des grandes messes multilatérales. Et donc... Macron ou d'autres, enfin, puisque là c'est la France qui s'engouffre avec le Mexique dans cette affaire-là, saisit ce moment-là pour dire ben, on va faire des alliances bilatérales entre tel ou tel pays qui est, ce que Joël a rappelé tout à l'heure, un champion sur la question, hein, un champion. Et donc on est dans ce moment-là, quoi, c'est-à-dire on est dans ce moment-là où la. Comme rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, est-ce qu'on peut condamner totalement ces initiatives? Alors, je ne parle pas du cas français, parce que nous sommes français et qu'il y a d'autres choses en jeu au niveau politique, mais est-ce qu'on peut condamner totalement ces initiatives bilatérales aujourd'hui qui veulent faire monter des expérimentations positives, intéressantes, qui peuvent être des modèles, je dirais, pour d'autres pays, dans une situation qui, effectivement, a l'air complètement fermée au niveau mondial. Ou alors, est-ce que, moi, je n'ai pas la réponse du tout, hein, ou alors, est-ce que ce discours sur le fait que si on faisait une conférence internationale mondiale, on régresserait sur le droit des femmes, effectivement, est un discours où se cachent des récits. Qui se présentent comme progressistes, mais qui sont au fond relativement assez conservateurs. Moi, je ne sais pas, je mets ça sur la table, là, comme ça. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué, la situation actuelle. Il faut regarder de près ce que va donner, effectivement, les initiatives de génération, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui vont avoir lieu donc à partir de mars-avril là, entre la France, le Mexique, le Canada, etc. pour voir si ça fait un peu avancer les choses, ou alors si c'est une récupération institutionnelle d'un combat des femmes qui sert simplement aujourd'hui à faire de la géopolitique, voilà, dans un monde qui est marchandisé et libéral. Je n'ai pas la réponse, mais je trouve que ça vaut le coup de poser les questions de cette manière-là, en laissant ouvert l'avenir. Ouais. Tout n'est pas bouché. Ouais.
Oui, effectivement, mais il faut quand même voir que le Canada, qui s'est engagé dans une politique étrangère féministe, a réduit son aide publique au développement. Hein. Il faut quand même voir les choses de cette façon-là. Quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de peut-être aussi de focaliser en quelque sorte l'aide et les relations internationales sur une population plus restreinte en diminuant la contribution du pays, quoi. Voilà, alors je ne dis pas ça pour dire que tous les pays engagés dans une politique étrangère féministe vont faire la même chose. Je n'ai pas scruté de près ce qu'a fait la Suède, mais bon, ce qui est clair, c'est que la Suède, le Canada et la France n'ont peut-être pas à être trop arrogants sur cette question-là. Quoi. Voilà. Maintenant, on verra comment. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont pris le mouvement. Quoi, hein. Ça fait déjà quelques années que la Suède, je crois, a commencé. On ne peut pas dire qu'il y ait énormément de pays qui aient suivi le mouvement sur cette idée d'une politique étrangère féministe, parce que on se demande aussi où est l'entourloupe, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut à travers ça, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment une émancipation réelle des femmes, ou bien est-ce que c'est un effet d'annonce pour d'autres pays?
On a une intervention chez nous.
J'essayais juste de faire l'avocat du diable. Hein. C'est ce que m'avait demandé Joël, alors c'est pour ça.
Il y a Léa qui va intervenir, mais elle n'est pas dans le sujet, alors elle est embêtée. Mais on va la laisser parler quand même.
Non, mais moi, ce qui m'interpelle toujours dans ce type d'analyse aussi, c'est que la parole des femmes, finalement, est toujours... enfin, en tout cas, elle l'a été souvent, et peut-être de moins en moins, mais sous-représentée. Et en particulier, bah, la parole directe des femmes qui sont directement concernées et qui subissent ces situations. Et moi, ce qui m'interpelle, du coup, c'est qu'en fait, quand les femmes... même quand elles osent prendre la parole, en fait, il y a toujours une espèce de situation de marginalité qui fait que, voilà, elles peuvent être obligées de se cacher derrière des pseudonymes masculins, comme si, en fait, la parole universelle qu'elles voulaient transmettre était toujours exposée à une lecture particularisante. Et moi, voilà, c'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire que jusque dans leurs paroles, finalement, elles vont être réduites à leur fonction un peu biologique. Et qu'en fait, voilà, le fait d'utiliser un petit peu ces détours, ces ruses pour se faire entendre, c'est leur seule manière finalement de dépasser les principes irréductibles.
Christian, coupe ton micro.
Ah, excusez-moi.
Voilà, donc déjà la question, c'est de savoir si on peut avoir une vision quelque part un peu non-genrée sur les discours des femmes, en fait. Parce que là, il y a une... Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un affaiblissement presque immédiat de leur opinion et de leur vision, de leur discours, qui n'a plus le même impact, du fait même qu'elles sont des femmes, en fait, et qu'elles sont quelque part incapables de porter une parole universelle. Voilà. Enfin, moi, c'est ça qui me... qui m'interpelle, mais bon, je suis peut-être pas dans le sujet complètement.
Si, c'est complètement dans le sujet, et pour... c'est vrai qu'une conférence internationale sur le sujet, est-ce qu'une conférence internationale donne la parole aux femmes? On peut se poser la question.
Mais tu vois, même, moi je dis que même quand elles prennent la parole, il y a une écoute, une lecture de leur discours qui est immédiatement genrée, qui va réduire quelque part leur parole à... tu vois, comme si elle pouvait pas avoir une pensée, un discours, une visée universelle en fait dans ce qu'elle disait. Moi j'ai vraiment cette impression de réduction là. Mmh. Voilà, après c'est ma sensation, et d'où bah, les pseudonymes masculins dans l'histoire, c'est pas nouveau. Il y a eu George Sand aussi, hein. Il n'y a pas eu que Jules qui se cachait derrière un jeu masculin. Il y a eu aussi Nathalie Sarraute, elle, dès qu'elle voulait exprimer une pensée universelle, elle exprimait jamais le jeu, de peur justement de la réduction de sa pensée à son genre féminin. Donc en fait, elle utilisait toujours des pronoms il ou elle, et c'était sa manière à elle d'essayer d'avoir le plus de portée possible. Donc ça, c'est pas nouveau du tout, et voilà, moi j'ai l'impression qu'on est encore dans la continuité de ça, quoi. Et avec une sous-représentation totale des femmes elles-mêmes, de qui on parle, en fait. Et l'action, c'est aussi qui décide, quoi. Qui va décider pour elles, qui fait les lois. Enfin, voilà. Mais bon, c'est juste de poser une question.
Merci, Robert. C'est lié à la narcotique. Christian, on t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro, Christian.
Christian, tu...
Ton micro.
Ton micro.
Je devrais pas me lancer, Lia, parce que je sais pas où ça va nous mener, mais... En fait... On n'a plus qu'à se taire, si tu veux, parce que quand on est un vieux mâle blanc comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est que non seulement les femmes, si tu veux, à partir du moment où elles nous disent, si tu veux, que leur discours est disqualifié, elles apparaissent dans l'espace public et elles nous disent « Vous ne représentez plus l'universalité du discours, vous représentez celui qui est le vieux mâle blanc. » Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je parle aussi en tant que vieux mâle blanc, et ça m'emmerde. Comme toi, ça t'emmerde qu'on t'entende que comme une femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'on est tous coincés dans cette histoire par le fait qu'à un moment donné, on pose comme ça une sorte de limite où il y aurait d'un côté le masculin, l'autre côté le féminin.
Exactement.
Moi ça m'embête autant que toi. Mmh. Mais pour des raisons qui sont différentes. Mmh. Mais je ne sais pas si on va pouvoir en sortir dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Il va falloir qu'on travaille, je dirais, nos psychologies collectives, parce que c'est carrément ancré, quoi. Enfin, ouais. Voilà.
Bah là, je peux réagir à ce que tu dis. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où, pour moi, c'est comme si avec presque une réflexion vraiment très philosophique aussi à avoir là-dessus, qui est peut-être un peu plus absente du débat, et qui serait le refus du dualisme, en fait. C'est-à-dire ne pas admettre l'existence de deux principes irréductible, et en fait de considérer aussi que l'identité de chacun, enfin critiquer en fait l'idée d'une identité, notamment sexuelle, qui serait, ou de genre, qui serait stable en fait, et comme s'il pouvait y avoir aussi quelque part une irréversibilité, une réversibilité des sexes en fait. Et ça, c'est une vraie question. Voilà, philosophique, je pense, c'est que bon, qui a été amené par plein de mouvements, hein, les mouvements queer, les mouvements, enfin voilà, qui a été reprise par plein de mouvements, et dans la littérature aussi beaucoup repensée par des écrivains, notamment des écrivains femmes. Je pense à Wittig, Monique Wittig. Mais voilà, pour moi, effectivement, si on veut aller plus loin, tu vois, c'est comme si à un moment donné, ben, on était forcément sur une limite, quoi, et qu'on était tous... parce que quand la femme dit qu'elle est disqualifiée par sa condition de femme, immédiatement l'opposé est vrai, tu vois, c'est-à-dire que ça remet les choses immédiatement dans une dualité masculin-féminin, et donc l'homme peut se sentir lui aussi, voilà, sauf qu'on n'a peut-être pas la même place dans l'histoire, on va dire, par rapport à l'impact, enfin par rapport à des notions de pouvoir et de domination. Mais dans le fond, c'est pareil, tu vois, c'est un petit peu le même... donc ouais, c'était juste pour réagir à ce que tu disais. Voilà.
Oh bah Joël, il est parti du coup.
Putain, j'ai fait pire, Joël.
Reviens, Joël. Le vieux mâle blanc. On a cru que t'étais parti, Joël, on a eu peur. Bon, des réactions encore? Diana, le micro. Le micro.
Ah oui, pardon. Oui, on parle effectivement beaucoup de dualité et peut-être aussi à commencer à envisager la notion d'union et de connexion, c'est-à-dire connexion dans chacun de nos intérieurs entre notre part masculine et notre part féminine, tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, pour qu'aujourd'hui on puisse donner une nouvelle place face à ces mouvements effectivement qui ont eu lieu, où aujourd'hui ça peut être même vécu comme péjoratif de se dire féministe. Et en même temps, on sait que les hommes commencent à dire qu'ils sont féministes, ils sont fiers de le dire. Tout dépend aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière. Mais je pense qu'il y a une refonte à faire, alors soit peut-être utiliser d'autres termes ou donner une autre définition à ces termes-là. Mais ça veut dire que c'est aussi déconstruire, en fait, les visions qu'on a de notre part de masculinité et de féminité par rapport à toute notre éducation. Et je pense que ça passe aussi par, voilà, cette union avec... ce qu'on a en nous, comme faisant partie de ce qui nous sommes sans avoir besoin d'être mis dans des cases et d'être codé comme tel, en fait.
Alors, est-ce qu'un homme peut être féministe ? Ou est-ce qu'en sympathisant au féministe, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment aborder ces questions?
Faites le micro couper.
Qu'est-ce qu'on pense?
Socrate.
Moi?
Oui.
Moi, ce que j'en pense. Ouais, j'en pense que dire en tant qu'homme qu'on est féministe est souvent vu. Avec beaucoup de suspicion par certaines personnes, donc je ne sais jamais trop où je mets les pieds en parlant de ça. Moi, j'ai deux filles et je vois bien les choses qui se passent, quoi. Mais comment dire, j'ai beau être dans une promotion du féminisme, j'en reste pas moins un homme, quoi, avec tout ce que, comme tu as dit, le vieux mâle blanc et tout ce dont on est porteur et qui est très chamboulé. C'est d'ailleurs assez, j'ai du mal à exprimer, en fait. Mais je trouve que c'est compliqué de se dire féministe quand on n'est pas fan de soi-même. Voilà, je trouve que c'était pas forcément le bon terme.
Peut-être qu'il faut qu'on définisse aussi ce que c'est que le féminisme. C'est très confus parfois, je pense aussi, parce que être féministe pour un homme, ça ne veut pas dire être féminin. Il y a des différences, je pense. C'est pas qu'en étant homme et féministe, ça ne veut pas dire qu'on perd notre masculinité. Ça, c'est complètement différent, je pense. On peut être un homme et être viril, entre guillemets, je ne sais pas, être un homme blanc et être féminin, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait définir le féminisme, du coup, moi, il y a tellement de différentes façons, je pense, d'être féministe. Je ne sais pas, en fait, finalement, ce que ça veut dire.
Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les hommes qui subissent. Donc, le rééquilibrage... ils peuvent l'accompagner. Je crois que c'est vraiment une question de mots, en fait.
Pour moi, le féminisme a quelque chose d'inclusif. Mais ce n'est pas tous les féministes qui entendent ça comme ça. Parce qu'il y a une jeune féministe qui a écrit un livre récemment, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais là, le titre du livre, c'est « Je déteste les hommes ». Pour moi, ça, c'est une autre façon d'être féministe. Mais ce n'est pas le féminisme qui me semble juste de mon point de vue. Parce qu'il ne devrait pas être exclusif. Au moins, le féminisme, il est exclusif et inclusif dans le sens où il inclut, il a quelque chose de féminin, de maternel. Et on peut être homme et avoir cette attitude inclusive, d'inclure les autres. Pour moi, c'est plutôt des valeurs, en fait. Des valeurs qui partent peut-être d'une attitude peut-être typiquement féminine, mais qu'on peut retrouver chez les hommes aussi. C'est le fait de protéger la vie. C'est de prendre soin des autres, c'est d'être attentif aux relations, de donner beaucoup d'importance aux relations. Et ça, je pense que ce sont aussi des qualités qu'un homme peut avoir. Ce n'est pas exclusif aux femmes. Donc on peut être à la fois homme et féministe.
Et les autres hommes, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Et
où
sont
les autres femmes d'ailleurs?
Ouais. Ouais,
je pense que
j'ai pas. Ouais. Vas-y.
Non, une fois qu'on a mis de côté, je pense, des fois le piège sémantique dans lequel certains peuvent tomber en se disant le féminisme c'est une inversion en fait des rapports de force, et on ne veut pas tomber dans un rapport de domination des femmes envers les habits des hommes. Enfin, c'est un peu ce qu'ils disaient, il y en a qui. Il peut y avoir une confusion un peu sur les termes des fois. Voilà, le féminisme vu comme ce processus-là. Non, il peut y avoir une confusion sur ce rapport-là, sur certains hommes. Et moi, le premier, en discussion avec Claudia, ma copine, qui est militante aussi féministe, et des fois, au début de nos discussions, moi, je connais très peu les courants féministes. Au début, j'employais souvent le terme, je disais, mais moi, je préfère utiliser le terme humaniste, en fait, parce que féministe, j'ai l'impression qu'on lutte contre, en fait, contre des rapports de domination de type patriarcal et tout ça, en faisant une réinversion, en disant féminisme, en mettant un nouveau, en fait. Et j'avais du mal au début, conceptuellement, en me disant, pourquoi pas parler d'humanisme dans une forme de sortir de cette dualité et rentrer dans un monisme, je sais pas, dans un truc plus. Voilà. Et après, en voyant que. Aussi peut-être en me renseignant aussi davantage, et il y a tout un processus aussi, aussi de lutte, et également ce processus aussi de rapport d'équilibre dans la relation. Voilà, j'ai remis un peu ça, mais ouais, c'est ma petite anecdote que j'avais pu avoir, je me souviens, il y a quelques temps. Avec...
C'est intéressant ce que tu dis, Benjamin, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une explosion de féminisme, d'une reconnaissance aussi des choses peut-être qu'on n'a pas osé dire, qui viennent maintenant, qui font surface maintenant, des secrets qui ont été gardés pendant longtemps. On ne s'est pas senti en tant que femme être légitime de dénoncer des souffrances qui étaient peut-être typiquement en femme, que les femmes ont subies. Maintenant, ces souffrances-là sont reconnues comme légitimes, et c'est comme si tout d'un coup les femmes prenaient beaucoup de pouvoir, et je pense que ça fait que du coup les hommes en souffrent aussi, parce que presque c'est comme si on stigmatisait les hommes, c'est comme si eux c'était des violeurs, c'était des méchants quoi, c'est dans l'histoire. Et du coup je pense qu'il y a cette inversion de rôle en ce moment, et je pense que les hommes souffrent beaucoup en ce moment, parce que tout ce qui a été fait dans l'histoire, c'est comme si maintenant on était en train de faire surface, de changer, et pour le moment je pense qu'on est dans un moment de oscillement comme ça, où vraiment c'est une transition, et je pense que les hommes aujourd'hui souffrent beaucoup de ça, parce que ce sont des choses, peut-être les hommes ont dominé pendant longtemps, et c'est les hommes contemporains qui souffrent de ça, parce que c'est en ce moment qu'il y a ce changement qui est complètement radical, parce que je pense que le féminisme existait depuis longtemps, mais surtout ces dernières années, je trouve qu'avec Internet, il y a une explosion comme ça qui va dans tous les sens, et du coup je pense que ça questionne vraiment aussi les identités masculines. On se sent maintenant, je pense, plus vulnérable aussi en tant qu'homme. Parce qu'on se pose aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme? Et je pense que c'est vraiment une époque très intéressante, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais on est aussi très perturbé par tous ces changements. Parce qu'on est en train de... C'est comme si on était en train de laisser tomber une vieille peau, mais pour faire reconstruire du nouveau, on a besoin aussi du temps. Et je trouve qu'il y a une grande confusion, parce que les femmes veulent aussi à la fois être libres, mais elles veulent aussi avoir les privilèges d'une femme traditionnelle. Hein. Et du coup, c'est vraiment, je pense, à un moment de transition qui a fait qui porte beaucoup de confusion, et aussi beaucoup d'espoir. Il y a plein de choses en ce moment qui sont en train de se passer, très intéressantes, mais je pense que c'est difficile à prendre le recul et voir ce qui est en train de se passer en ce moment.
En fait, en tant qu'homme, être féministe, c'est quand même l'acceptation d'une certaine déconstruction. Il faut accepter de se laisser déconstruire. Moi, c'est, quand je vous parlais de mes filles tout à l'heure, moi, j'ai en particulier ma fille la plus jeune, qui pointe tout ce qu'il peut y avoir de patriarcal dans une attitude d'un homme dont il n'a pas conscience. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que tout à l'heure je disais, ça, c'est difficile pour moi de me dire que je suis féministe, dans la mesure où je ne suis, suis pas moi-même conscient de tout ce qui a pu être intégré dans ma vie, dans mon éducation, et dans les représentations culturelles, dans les représentations audiovisuelles, ne serait-ce qu'il y a de quelques décennies. C'est incroyable comme les choses ont évolué et comme certaines publicités ou certaines émissions ou certains propos qu'on entendait dans les médias il n'y a pas si longtemps seraient aujourd'hui, commence à me paraître incroyable. Je me dis comment est-ce qu'on a pu, il y a 20-30 ans, assister à ça, voir telle publicité, entendre tel propos. Donc voilà, c'est tout un travail de déconstruction, de se dire « Ah oui, quand même, on ne mouchetait pas là-dessus, on ne bronchait pas, on acceptait cette représentation de la femme, de voir et de la voir aussi généralisée. » Voilà. C'est pour ça que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que me dire féministe en tant que tel, c'est compliqué tant qu'on n'a pas soi-même accepté d'être complètement déconstruit. Je ne sais pas si on peut l'être complètement, en tout cas pour les gens de mon âge, mais d'être suffisamment déconstruit pour justement laisser retrouver un équilibre. Voilà.
Et c'était quoi ces exemples? Est-ce que tu peux donner des exemples par rapport à ces...
Alors, écoute, je regardais l'autre jour une émission sur l'évolution de la télévision depuis dans les années 80. Et si tu veux, par exemple, une émission très populaire, genre le Coco Boy de Stéphane Collaro, où il y avait une playmate à 17h45 qui se déshabillait tous les jours. Tu imagines ça actuellement? Ouais, et on regardait ça en se disant, ouais, tiens, bon, ouais, bon. Et en fait, c'est absolument inacceptable, enfin, c'est de mettre ces images en produit des heures de grande écoute et sous cette forme-là. Heureusement, ça me paraît inimaginable aujourd'hui. Et je me dis, heureusement. Et en même temps, je me dis, il y a 30 ans, bouf, personne ne penchait. Enfin, voilà, c'était le truc super moderne. On dépoilait une femme à 17h45. Et puis, d'une façon complètement stéréotypée, d'une grande. Une grande vulgarité, quelque part. D'un très grand irrespect, tu vois, voilà. C'est ce genre de choses, je me dis, sur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ces représentations féminines sont en train de changer. Mais je réalise à quel point on en a été imprégné, notamment par le pouvoir de l'image, par l'omniprésence de l'image. Juste un exemple, voilà.
Comment ça a changé assez vite, quand même, ces derniers temps, surtout, je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements.
Et je prends cet exemple parce que c'est une image grand public. Et même dans les choses, dans l'imagerie la plus grand public qu'on puisse on puisse se figurer actuellement, ce genre de choses sont peut-être moins présentes, il me semble. J'espère. Ça passe pas longtemps devant ce genre d'émission.
Elles construisent leur propre image aussi.
Tu prends la parole? Je vais donner la parole à Lia, puis on arrive proche de la fin de notre soirée. Mais Lia, tu veux dire un mot?
Non, mais juste rapidement pour rebondir sur ce que tu dis, Christopher, par rapport à toute cette imprégnation et à l'aliénation, en fait. C'est-à-dire que les femmes construisent leur propre image, leur propre aliénation aussi, tu vois. Et je pense qu'elles ont à déconstruire autant les stéréotypes à l'intérieur d'elles-mêmes, sur elles-mêmes, que les hommes n'ont à le faire, en fait. Tu vois, enfin, ça va dans les deux sens aussi pour moi. C'est pour ça que même en tant que femme, ça pourrait presque être dur de se dire féministe à ce niveau-là, tu vois, parce que je pense qu'on a aussi, on est aussi gonflé de représentations, de conditionnements, de croyances, de pensées, enfin tout ce qui font qu'en tant que femme, on construit notre propre archétype, notre propre aliénation, tu vois. Donc pour moi, la déconstruction, en fait, elle doit vraiment aller dans les deux sens. Et ça me permet aussi juste d'opérer un mini basculement quand même, parce que pour moi, il y a toujours un risque d'une trop grande victimisation de la femme aussi. Du fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'elle a à faire sur elle-même, tu vois. Elle ne peut pas juste tenter d'agir sur les hommes ou sur... tu vois, ou s'enfermer dans cette position-là, quoi. Voilà.
Bah, c'est un processus qui est complètement en miroir, en fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Moi, j'ai bien aimé, Benjamin, ton idée de dire bah, « je suis pas féministe, je suis humaniste ». Moi, je trouve que c'est... J'aime bien cette idée.
Oui, parce que je trouve que c'est pas dualiste, en fait.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Je suis absolument d'accord, Lia, avec ce que tu dis, enfin, profondément, ces questions de... Et oui, de signification à déconstruire des, aussi des deux côtés. Et je trouve que oui, il y a un phénomène rapide, peut-être, sur les quelques décennies récentes, je sais pas, beaucoup de personnes ont l'air de le dire. J'ai du mal à me rendre compte, évidemment, à part de ce que je peux voir dans la littérature, je l'ai pas vécu, quoi. Hein. Donc c'est sûr que ça porte des lueurs d'espoir aussi sur une échelle plus large, aussi, sur une capacité peut-être. Sur des mouvements comme ça de déconstruction, reconstruction, sur les significations, et peut-être notamment par rapport à d'autres sujets, dans le sujet qu'on aimerait beaucoup, quasiment tous ici, qui est davantage d'autonomie pour tous, hein, et une réelle autonomie profonde et pas superficielle, quoi. Voilà.
Trop bien.
Merci. Ben, écoute, c'est presque une belle conclusion ce que tu viens de faire, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on reste sur les jolies paroles de Benjamin ou est-ce qu'il y a d'autres choses à dire encore sur le débat avant de conclure ? Bon, ben, je crois qu'on va rester sur les belles paroles de Benjamin. On va emmener ça dans notre cœur ce soir. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. Joël, merci beaucoup pour...
Merci beaucoup.
Je pense que on pourra mettre l'audio, je pense que ce sera de bonne qualité sur le site internet. Si jamais, Joël, tu as envie de mettre en forme un papier, c'est aussi possible de publier un papier là-dessus. Enfin, je sais pas si tu as le courage, si c'est un gros boulot ou pas, mais on a une petite rubrique revue dans notre site. Et je pense que, voilà, si tu as envie de mettre tes notes au propre, ça pourrait faire un beau papier pour notre revue. Mais bon, libre à toi, il faut pas... Ben, en tout cas, on va se séparer comme ça. On est... bon, vous verrez, je ne vais pas vous faire la liste des événements à venir, mais vous verrez le programme sur le site. Et puis... Et puis merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas de désobéir et à bientôt.
Merci à tous.
Ciao.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir à tous, merci.
Au revoir.
Salut.
On coupe ou...
Allez.
Allez, hop. Écoute.
Ça va ?